VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine hebdomadaire Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais juste avant, un résumé des principales nouvelles du monde. Au moins 15 personnes ont été tuées aujourd'hui dans 3 attentats suicides commis à Damaturu, capitale de l'état de Yobe dans le nord-est du Nigeria. Une information confirmée par l'Agence nationale de gestion des urgences, la NEMA. Les précisions de Jacques Aristide.
Les jours se passent et se ressemblent au Nigeria. Ce mercredi, deux assaillants se sont fait exploser devant un magasin et une mosquée dans une zone résidentielle et un autre dans le quartier de Fulani, dans les faubourgs de Damaturu. En l'absence de revendications, les soupçons des résidents se portaient sur Boko Haram. D'après l'AFP, les islamistes nigérians affiliés au groupe État islamique ont déjà frappé à plusieurs reprises à Damaturu et dans l'état voisin de Borno. L'armée nigériane a par ailleurs fait état aujourd'hui d'une offensive de Boko Haram repoussée à Goniri, à 60 km au sud-est de Damaturu. Les troupes nigérianes annoncent régulièrement avoir infligé des pertes dans les rangs des insurgés, mais ces informations sont difficiles à vérifier et rarement confirmées de sources indépendantes. D'autant que Boko Haram continue à un rythme soutenu ses raids meurtriers contre des villages du nord-est du Nigeria, souvent pour se ravitailler et multiplie les attentats suicides, y compris dans les pays voisins, au Tchad, au Niger et au Cameroun.
Élections en RDC, la MONUSCO demande à Kinshasa de garantir une campagne électorale équitable, n'excluant personne, afin d'aboutir à des scrutins législatifs et présidentiels crédibles. Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a dénoncé un nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral, particulièrement à l'encontre du droit de rassemblement pacifique. Les relations entre le Burundi et le Rwanda se détériorent. Bujumbura a expulsé Désiré Yaruhira, ministre conseiller auprès de l'ambassade du Rwanda dans la capitale burundaise. Une décision confirmée par un officiel rwandais ayant requis l'anonymat, sans toutefois fournir d'explication. Éric Manirakiza.
Désiré Nyaruhirira détient également la nationalité burundaise. Selon des sources proches du diplomate, il avait déjà évacué sa famille vers Kigali depuis une semaine, à cause de plusieurs menaces de mort reçues. En poste depuis 2003, il aurait mené ces derniers jours une vie presque intenable, l'obligeant à être à sa résidence à 16 heures plus tard pour sa sécurité. Un officiel au sein du gouvernement rwandais joint par VOA Afrique, mais qui a requis l'anonymat, a confirmé cette expulsion qu'il a qualifiée de provocation. Selon d'autres sources à Bujumbura contactées par VOA Afrique, le diplomate rwandais serait accusé d'espionnage et de soutien aux adversaires du troisième mandat du président burundais. Une autre décision prise ce mardi par le gouvernement du Burundi et qui témoigne de l'escalade de tensions avec Kigali, c'est l'expulsion en 48 heures des Rwandais établis dans le nord du Burundi à Kayanza. Le nombre n'est pas encore connu, mais ceux-ci exerçaient le commerce dans cette région depuis très longtemps, selon l'officier rwandais joint à Kigali.
Génocide rwandais, Kigali a exprimé sa grande déception après le non-lieu accordé par la justice française au prêtre Wenceslas Munyeshiaka. Aucune poursuite introduite en France à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide n'a abouti à un résultat définitif, dénonce l'ambassade du Rwanda à Paris. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé mercredi la mort d'un casque bleu burundais de la mission de l'ONU en République centrafricaine lors d'une embuscade mardi au nord de Bangui. Le gouvernement centrafricain envisage des mesures pour renforcer la sécurité à Bangui.
C'est le calme et on espère que la situation va perdurer. Et pour cela, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour ramener la paix, le calme, notamment le couvre-feu qui est fixé à 18 heures, mais que nous allons alléger compte tenu donc de l'amélioration de la situation sécuritaire. Donc le couvre-feu va être ramené à 20 heures.
Le ministre centrafricain de la Sécurité, porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Paginji. Liberté de la presse bafouée au Tchad. Reporters sans frontières dénonce vivement l'arrestation arbitraire du journaliste tchadien Stéphane Mbayrabehouay N'Djamena. Il aurait été interpellé dans la nuit du 2 au 3 octobre par la police judiciaire sans mandat d'arrêt. L'organisation fait état de mauvais traitements infligés aux confrères en détention. menotté et les yeux bandés. Le journaliste a été tabassé par les hommes en civil afin qu'il révèle ses sources après la publication d'un article critiquant le président Idriss Déby Itno. Le journaliste, qui a ensuite été libéré, porte les stigmates des coups reçus, selon Reporters sans frontières. Il attend d'être fixé sur la date de sa comparution en citation directe pour diffamation. Lutte contre Al-Shabaab en Somalie, l'organisation islamiste promet d'accueillir avec des balles les soldats britanniques. Londres a annoncé le mois dernier le déploiement de 70 militaires en Somalie, en soutien à l'AMISOM, la force de l'Union africaine qui y combat le mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda. Le premier ministre britannique David Cameron prévoit aussi d'envoyer 300 soldats au Soudan du Sud, intégrés à la mission de l'ONU sur place, la MINUS. Crise libyenne. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye a exprimé son espoir de parvenir rapidement à un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale entre les deux parties rivales libyennes. C'est ce que rapporte l'AFP. Et nous avons un accord. Il s'agit d'un accord final et équilibré qui représente une immense chance pour la Libye, a déclaré Bernardino León.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise migratoire en Europe, l'opération navale Sophia de l'Union européenne a commencé aujourd'hui. Jusqu'ici limitée à une surveillance à distance des réseaux de passeurs, cette mission de lutte contre le trafic humain en mer passe désormais à une phase plus décisive, plus offensive. Précision d'Ilidico.
Cette nouvelle opération navale dans le sud de la Méditerranée vise à intercepter les navires de passeurs et de trafiquants humains tentant de transporter les migrants et les réfugiés vers les côtes européennes. Baptisée Sophia, du nom d'une fillette née après le sauvetage d'une embarcation en perdition, cette opération permet aux navires des 22 pays impliqués d'arraisonner, fouiller et saisir les bateaux suspects. Auparavant, les opérations en mer de l'Union européenne se limitaient à des expéditions de recherche et de sauvetage, mais suite à la vague inédite de migrants venus cet été de Syrie, d'Irak et d'ailleurs, ainsi qu'aux milliers de pertes en vie humaine en mer, la décision a été prise de passer à une nouvelle phase dans la lutte contre les passeurs. Pour rappel, cette crise des migrants est la plus importante connue par l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres actuels indiquent que plus de 130 000 migrants ont rejoint l'Europe cette année en partant de l'Afrique du Nord et 2700 d'entre eux se sont noyés lors de la périlleuse traversée.
Alors que l'aviation russe augmente ses frappes en Syrie, l'armée de Bachar al-Assad a lancé aujourd'hui une série d'attaques au sol visant à éradiquer la rébellion dans le nord de la province de Hama et dans le centre du pays. Selon une source militaire citée par l'AFP, cette vaste opération terrestre a été rendue possible par l'intervention de Moscou dans la crise en soutien au gouvernement du président Assad. Washington persiste dans son rejet de l'implication russe en Syrie, que le Pentagone qualifie d'erreur stratégique. Les États-Unis ont assuré ce mercredi qu'ils ne coopéraient pas avec Moscou sur les frappes aériennes menées en Syrie. Près de 5 mois après la prise de la ville de Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, les forces gouvernementales irakiennes soutenues par la coalition internationale semblent prêtes à déloger les djihadistes du groupe État islamique. « Je m'attends à une libération de la ville d'ici fin octobre », a dit à l'AFP Adhal Fadawi, membre du conseil provincial. L'opération, qui a mobilisé 2000 hommes, a permis à l'armée irakienne et ses alliés de reconquérir plusieurs localités proches de Ramadi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reporté sa visite prévue jeudi en Allemagne. Les observateurs y voient un lien direct avec le climat tendu qui prévaut depuis des semaines entre Israël et les Palestiniens. Politique américaine, Donald Trump maintient une avance considérable face à ses adversaires républicains dans 3 États clés, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Floride. Chez les démocrates, le sondage de l'université Quinnipiac place Hillary Clinton en tête dans les mêmes États face à Bernie Sanders, Joe Biden, qui n'est même pas encore officiellement candidat, mais avec une marge plus réduite qu'avant. Depuis 1960, il faut le rappeler, aucun candidat n'a été élu président des États-Unis sans remporter 2 de ces 3 grands États. Et sachez aussi que le prix Nobel de chimie a été décerné cette année à 3 chercheurs, le Suédois Thomas Lindahl, le Turc Aziz Sankar et l'Américain Paul Modrick. Le comité Nobel les a récompensés pour leurs travaux sur la réparation d'un ADN humain, une méthode pouvant aider au traitement du cancer. Nouvelles du monde, Washington, chez Ruben Orsine.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.